le grand face-à-face XXL, Thomas Negarov sur France Inter.
Je pourrais vous dire ce soir, parce que ça n'est pas populaire. Vous savez, c'est loin. Nous, on est pour la paix. On est pour la paix. Les gens qui disent ça aujourd'hui, les mêmes qui ne veulent pas d'ailleurs soutenir l'Ukraine, ils ne font pas le choix de la paix. Ils font le choix de la défaite. Ils font le choix de l'abandon de souveraineté.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
Emmanuel Macron, et on revient semaine après semaine sur cette question de l'Ukraine. C'était jeudi soir sur TF1 et France 2 dans le journal de 20h. Natacha, cet argument-là de dire l'Ukraine c'est notre histoire et considérer qu'il ne faut pas soutenir l'Ukraine, c'est être non pas partisan de la paix mais de la défaite. Comment est-ce que vous l'entendez ?
Alors, il y a deux choses différentes dans ce que vous venez de dire. Il y a la dimension très concrète de l'état du front et de l'état de l'armée ukrainienne. Et donc, nous sommes bien d'accord que les rapports qui remontent du terrain disent à quel point l'armée ukrainienne est peut-être sur le point de craquer. Mmh. Auquel cas, il faut évidemment empêcher cela de toutes les manières possibles, c'est-à-dire en donnant à l'Ukraine les moyens de rétablir le rapport de force en vue d'autre chose. Et c'est là que ça devient extrêmement important. En revanche, quand vous dites l'Ukraine, c'est notre histoire, etc., là, il y a...
C'est pas moi qui le dis.
Oui, c'est le début de l'allocution d'Emmanuel Macron qui est dans un, on va dire, un récit qui est celui de l'Occident depuis que ce conflit a commencé et qui lit les choses de manière éminemment manichéenne, ce qui permet de, j'allais dire, de galvaniser les foules, c'est visiblement le but, mais qui ne permet pas d'avoir une lecture raisonnable et lucide des choses. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont il a répété plusieurs fois, inlassablement, si il y a une guerre, Vladimir Poutine sera le seul responsable. Vladimir Poutine est le seul responsable de l'invasion de l'Ukraine et de la guerre en tant que telle. Oui. Mais là, avoir le président d'une puissance nucléaire qui répète cela plusieurs fois, comme pour dire « attention, ça va arriver », c'est quelque chose d'assez irresponsable, en fait. Parce que c'est une escalade verbale et que, en la matière, les escalades verbales sont dangereuses. Et que ce que je lis dans l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est cette idée, encore une fois, de la volonté d'établir un rapport de force. Or, le rapport de force, c'est concrètement qu'il faut l'établir. C'est sur le terrain. En revanche, je pense que le rapport de force purement verbal et lyrique est au contraire un aveu de faiblesse et un manque de maîtrise dont les conséquences peuvent être très graves. Et concrètement, il n'y a pas grand-chose pour aider l'Ukraine. Concrètement, il n'y a strictement rien pour placer les États-Unis devant leur responsabilité historique parce qu'ils en ont une et qu'en revanche, ils sont en train de se retirer tranquillement alors même que la situation devient tragique et que je pense que ce n'est certainement pas le moment, on va dire, de jouer à la guerre.
Gilles, Natacha a évoqué la question de l'irresponsabilité de l'escalade verbale présidentielle. Qui est irresponsable dans cette histoire ?
Bon, depuis le début, ça, je crois que c'est Vladimir Poutine. Vous dites, Emmanuel Macron revient semaine après semaine. On a quand même eu une semaine un peu différente des semaines précédentes, au sens où il a reçu l'ensemble des chefs de parti, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, et là, pour la première fois sur ce sujet-là, il s'est exprimé devant les Français. Donc cette semaine n'est pas exactement...
C'est vrai, on est sorti des déclarations qu'on reprenait plus ou moins bien d'ailleurs dans les médias.
Exactement. Je voudrais revenir d'un mot sur le débat à l'Assemblée avant d'aller sur Emmanuel Macron. À l'Assemblée nationale, d'abord, pour dire une déception sur l'affluence. C'est une question majeure, à un moment majeur, Natacha l'a dit. Ce débat a été demandé, il a été réclamé par les parlementaires. Les députés se plaignent à raison que les questions internationales fassent partie à l'excès du domaine réservé du président de la République. Ils se plaignent en ce moment que l'agenda parlementaire soit insuffisamment fourni. Et il y avait au maximum 150 députés
oui, je suis d'accord.
dans l'hémicycle.
C'était choquant.
Et précisément...
Un quart, quoi.
parce que je suis pour un Parlement fort, je pense que c'est vraiment inacceptable, d'autant plus qu'ils n'ont même plus le prétexte du cumul des mandats pour dire qu'ils devaient être dans leur circonscription. Et donc, je ne vois pas ce que 400 députés qui étaient absents avaient de mieux à faire que d'être dans l'hémicycle ce moment-là. Deuxièmement, sur le débat lui-même, sur les positions, chacun a fait de la politique et les votes ont, sans surprise, permis de clarifier à la fois l'ambiguïté de l'extrême droite et son abstention, le fossé entre les gauches, entre d'un côté la France Insoumise et le Parti Communiste, de l'autre côté Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, et le fait que, en gros, d'Europe Écologie Les Verts jusqu'aux Républicains, il y a des nuances importantes, mais il n'y a pas une frontière infranchissable.
Oui. Est-ce que c'est, vous avez dit, chacun fait de la politique. Est-ce que c'est choquant que chacun fasse de la politique dans un contexte pareil?
Non, non, je...
Non, mais tiens, moi, si on dit que la crise est existentielle, que de faire de la politique, j'entends politique politicienne.
Oui, chacun, ça n'a échappé à personne, il y a des élections européennes dans peu de temps, et je dirais Emmanuel Macron lui-même, on l'a dit, il y a à la fois la grande politique et la petite politique, et les choses sont toujours mêlées.
Alors le président.
Sur le président, je pense qu'on pouvait attendre d'une émission comme ça. En fait, j'ai essayé, avant l'émission, de dire qu'est-ce que moi j'attends d'une telle émission. Ce que l'on pouvait espérer, c'est une clarification. Une clarification sur l'analyse de la situation, sur la livraison effective des armes, sur le possible envoi des troupes, des forces françaises, puisque c'est ça qui a un peu changé la donne, et sur ce qu'étaient nos intérêts vitaux. D'une certaine manière, il n'a absolument rien dit de nouveau. Mais il l'a dit devant les Français. Et donc, ça, je pense que c'est plutôt utile de le dire directement devant les Français. Donc, les positions ont été exprimées. Est-ce qu'elles ont été clarifiées? Ce qui pouvait l'être l'a été. Et puis, il y a ce qui ne pouvait pas l'être. L'ambiguïté, par définition, dès lors qu'on veut maintenir l'ambiguïté, eh ben on ne peut pas la clarifier.
L'ambiguïté dite stratégique.
L'ambiguïté dite stratégique.
Cette expression, pardon,
et celui qui l'a clarifié d'une certaine manière, c'est Volodymyr Zelensky, la même semaine, qui dit « Tant que l'Ukraine tient, nous n'avons pas besoin des troupes occidentales en Ukraine », ce qui renvoie à ce que disait Natacha. L'essentiel, encore une fois, c'est le concret et c'est le front.
Un mot, pourquoi ça vous agace, ambiguïté stratégique? Ça fait vraiment partie de la boîte à outils de tout diplomate, de tout dirigeant politique, de ne pas dévoiler absolument ses cartes.
Oui, et c'est donc un concept stratégique de fond. Et c'est devenu un élément de langage, repris jusqu'à saturation par les journalistes, qui ne connaissaient pas le terme il y a trois mois, mais qui maintenant n'ont plus que celui-là à la bouche. Pardon, je m'énerve un peu, mais parce que sur un sujet aussi grave, vraiment, le traitement journalistique m'est insupportable, mais insupportable. Entre la facilité de communication, l'espèce de chantage qui interdit tout débat sur le thème « Vous êtes pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre Poutine ?» qui détruit toute possibilité de débat alors même que ce débat est absolument essentiel et qu'on ne rentre jamais dans les questions concrètes. La France a déjà des hommes en Ukraine, comme beaucoup d'autres pays européens. La question est de savoir lesquels on envoie maintenant, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on envoie des démineurs? Est-ce que, si Vladimir Poutine décide de cartonner des démineurs dans lesquels il y a des Français, c'est-à-dire des soldats d'une puissance nucléaire, nous répondons, de quelle manière? Ce sont des sujets gravissimes et concrets. Il ne s'agit pas de venir pérorer ou expliquer qu'on va chasser les supposés agents de Poutine.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
On a eu l'accord hier sur les travailleurs des plateformes dont on se satisfait, qui est le produit d'une bataille de longue date de ma collègue Leïla Cheibi. Enfin, enfin, des millions de travailleurs, les forçats de la route, comme on pourrait les appeler, qui viennent livrer de la nourriture, qui sont à la merci de grandes entreprises multinationales comme Uber. Enfin, ils vont avoir une protection sociale. Enfin, quand ils auront un accident du travail, ils pourront être protégés. Et cet accord, il s'est fait contre la France. Et c'est bien la preuve qu'en menant des batailles, eh bien, parfois, le lobby citoyen peut l'emporter contre le lobby des multinationales relayé par certains États.
Je vous ai vu pas mal réagir, Gilles. C'était Manon Aubry, députée européenne de la France insoumise, qui revenait sur cet accord politique européen trouvé cette semaine pour les 28 millions de travailleurs qui opèrent sur les plateformes en tant qu'auto-entrepreneurs. Le lobby citoyen contre le lobby du capitalisme et des plateformes. Est-ce que c'est une grande victoire démocratique cette semaine ?
Alors, c'est un sujet qui est à la fois très neuf, puisqu'il est lié au développement des plateformes numériques, les VTC ou les repas à domicile notamment, c'est-à-dire d'un secteur qui est peu régulé et dans lequel on a vu une explosion du nombre de travailleurs qui recouraient au statut d'indépendant.
Oui.
C'est un donc, sujet très neuf, déjà ancien quand même, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a en France, en Europe, un combat politique, syndical, juridique, et donc c'est pas le lobby citoyen. Ça va, c'est... Enfin, bon. Il y a eu une jurisprudence de la Cour de cassation. Bon, donc, ça c'est le sujet. Quel est l'enjeu si on essaye de l'expliquer en termes extrêmement simples ? Est-ce que ce travail indépendant est du travail salarié dissimulé ? Et donc, est-ce que ces travailleurs peuvent être requalifiés en salariés avec les droits sociaux qui vont avec le statut de salarié ?
Est-ce que le livreur Uber en vélo n'est pas en vrai un salarié d'Uber ?
Voilà. Et donc, en termes juridiques, ça veut dire, est-ce qu'il y a un lien de subordination entre le chauffeur d'Uber et Uber ?
Et des droits qui vont avec ?
Et ça va être ça, en termes juridiques, ce sur quoi a porté le débat depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a une présomption de salariat. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Un accord européen a été trouvé cette semaine grâce au ralliement de pays comme la Grèce et l'Estonie, malgré, je vais y revenir, l'abstention de l'Allemagne et l'opposition de la France. Cet accord crée une obligation pour les États de créer une présomption légale de salariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... voilà, c'est une transposition qui doit être faite dans chaque État, mais c'est une directive européenne qui va imposer ça. Donc, on renverse la charge de la preuve. Ça veut dire que c'est pas le chauffeur d'Uber qui devra prouver qu'il est salarié, c'est Uber qui devra prouver que son chauffeur est indépendant. Donc, c'est, je crois, vraiment un progrès. C'est à la fois positif parce que c'est, on va dans la bonne direction dans l'Europe sociale. Et au bon moment, parce qu'on est à la fin de la commission, et que si ça ne se faisait pas là, eh ben, on repartait pour des années. Quelle leçon, je termine par là, peut-on en tirer ? D'abord, comme souvent, les progrès viennent des institutions qui sont les plus décriées. Le Parlement européen et la commission, et ce sont les États qui ont été un peu en revers de la main. Deuxièmement, une nouvelle fois, comme on l'avait vu la semaine dernière pour le devoir de vigilance, c'est la France et l'Allemagne qui ont été des freins. Pendant des décennies, quand c'est la France et l'Allemagne qui faisaient avancer, qui entraînaient le reste, là, c'est eux qui bloquent, mais ils n'ont pas réussi, cette fois-ci, à bloquer, puisque le projet va aboutir. Et puis, je termine par un dernier élément, c'est que le combat n'est pas terminé. Parce que cette directive va être votée là dans les prochains jours, mais elle doit maintenant, dans les 2 ans, être transposée en droit national. Or, cette directive laisse une grande liberté dans la fixation des critères. Et donc, le combat n'est pas terminé. Et l'opposition de la France que l'on a vue depuis le début, on va voir si elle continue de s'exprimer dans la transposition.
Et comment on l'explique ? Pourquoi la France s'y oppose ? C'est quoi l'argument ?
Alors, l'argument, il y a plusieurs arguments. Il y a un argument qui tient, c'est bon pour l'emploi, et donc on ne fait rien qui puisse entraver le développement de l'emploi. Il y avait cette idée qu'Emmanuel Macron a portée depuis le début, y compris quand il était ministre de l'économie de François Hollande, du développement des plateformes comme progrès social, y compris comme mode d'insertion dans l'emploi. Donc, je crois que c'est ça qui principalement explique... cette position.
Oui. Natacha.
Gilles a fait un excellent panorama de ce qui s'est passé en termes de débat et de... Voilà. Donc, je vais plutôt poursuivre la réflexion sur ce qu'il vient d'esquisser. On se souvient qu'Emmanuel Macron a été décrié pour ses rendez-vous avec le patron d'Uber et qu'il y a une complaisance d'Emmanuel Macron depuis le début vis-à-vis de ces plateformes. Alors, en effet, c'est sans doute une question idéologique. C'est cette espèce de conviction qu'on retrouvait au cœur de la commission Attali, et pour en avoir discuté avec Jacques Attali, j'étais frappée d'ailleurs par cela, cette espèce de fantasme sur l'auto-entrepreneuriat qui était tellement plus épanouissant que le salariat. Voilà, le salariat, c'était les usines, c'était atroce, alors que l'auto-entrepreneuriat, c'était la liberté individuelle. C'est en fait un esclavage moderne, et on ne le dit pas, et les individus qui aujourd'hui prennent l'habitude de se faire livrer des repas refusent de voir qu'ils utilisent des esclaves. Voilà. C'est une nouvelle forme d'esclavage, et c'est aussi une façon d'appauvrir encore un peu plus l'État. Et cette directive est un progrès, mais il faut bien voir que très souvent, les employés de ces plateformes, en fait, réclament une requalification, souvent à la fin, quand ils cessent de travailler avec ces plateformes, pour obtenir un peu d'argent. Et donc, c'est une façon de les protéger, en effet, dans leurs droits salariaux. Ça ne règle pas la question qui est celle de la façon dont ces plateformes sont une mécanique pour échapper à l'impôt et aux charges sociales qui permettent à l'État d'avoir les finances suffisantes pour ensuite payer des hôpitaux, et nous allons en parler tout à l'heure, des écoles, etc. C'est-à-dire que c'est une mécanique éminemment perverse. Et le problème que nous avons, c'est que nous sommes condamnés à venir régler après coup les conséquences les plus ignobles de ce genre de mécanique. Et là, en l'occurrence, en effet, ça va améliorer très certainement les conditions de beaucoup de travailleurs. Mais ça ne permettra pas de revenir sur tout ce processus de dérégulation qui fait que les États aujourd'hui sont appauvris et n'ont plus les moyens de payer les services publics, de jouer leur rôle. La France en particulier est dans une situation tragique, notamment à cause de ça, mais je le répète, Emmanuel Macron a toujours trouvé cela formidable, comme beaucoup d'autres qui ont considéré que la dérégulation allait nous permettre de nous enrichir et de faire ruisseler la richesse. J'ai un doute.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
La présente écriture constitutionnelle prévoit donc la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à sa communauté historique, linguistique, culturelle, et ayant développé un lien singulier à sa terre.
Allez, troisième sujet du duel du jour. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'était mercredi. Après plus d'un an de négociations, Gilles, un accord a été trouvé en Corse avec un texte qui prévoit un statut d'autonomie de l'île au sein de la République. Bien sûr, l'État conservera ses domaines régaliens, police, armée, justice, mais la collectivité de Corse pourra adapter les lois et les règlements existants aux spécificités de l'île, mais aussi, et là c'est un petit peu plus inquiétant pour certains, voter des lois dans des domaines qui restent à définir. Gilles, est-ce que cette semaine la République est renforcée ou affaiblie ?
Je pense que c'est un bon compromis pour la Corse et que c'est un bon compromis pour la République. On est dans la continuité et la cohérence du discours d'Emmanuel Macron de septembre dernier. On est très très proche de ce discours-là. Le discours qui lui-même marquait une inflexion très forte des positions d'Emmanuel Macron précédemment. Ça a été mis en musique, je crois, plutôt bien par Gérald Darmanin. Pourquoi je dis que c'est un bon compromis, au-delà du fait, si je suis complet, que ce compromis est extrêmement proche du rapport que la Fondation Jean Jaurès a publié au début de l'année d'Yves Colmoux et de Laurent Cohen, qui reprend, qui est vraiment très très proche de ce qui a été trouvé. Pour deux raisons. D'abord, je crois qu'il est équilibré dans son contenu si on regarde attentivement ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Sur le plan symbolique, il y a une mention spécifique de la Corse dans la Constitution, c'est ce qui était demandé, comme il y en a une pour la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, il n'y a pas de reconnaissance du peuple corse. Sur le plan concret, il y a un engagement au développement de la langue corse, il n'y a pas de reconnaissance de la co-officialité, c'est-à-dire du fait que les fonctionnaires doivent obligatoirement pouvoir répondre en Corse. Il y a une possibilité d'adaptation réglementaire ou législative à la fois par le haut, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale, par le Parlement français, et par le bas, c'est-à-dire par la Corse, mais qui est limitée à certains domaines, et même dans ces domaines-là, qui est évidemment soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Et, pour terminer, il n'y a pas de statut de résident qui serait contraire à l'égalité entre les citoyens français. Donc, je trouve que sur le contenu, c'est équilibré. Et puis, la deuxième raison, et je crois que c'est très important d'avoir ça en tête, c'est que ce compromis est très large dans ses soutiens en Corse. Les oppositions principales, c'est celle des nationalistes, Jean-Guy Talamoni, et d'une partie des Républicains. Pour le reste, depuis des années, de manière constante, de manière réitérée, il y a une majorité de la population qui soutient l'autonomie. Et il y a un large spectre politique, au-delà du président de l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni, et notamment, ça va être important pour la suite, de l'ancien maire d'Ajaccio, qui est le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, Laurent Marcangeli. Bon, donc, je trouve qu'on est arrivé à un bon compromis. Je peux avoir des critiques, par exemple la formule sur la communauté, avec l'ambiguïté du mot communauté, oui. Me semble pas la plus opportune. Mais ce que je trouve positif pour terminer, c'est que c'est de traiter cette question-là à froid, alors qu'elle est beaucoup trop souvent à chaud. Et au fond, il y a un alignement sur d'autres territoires insulaires. En France, je l'ai dit, la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie. En Europe, c'est très proche de ce qui se passe en Sardaigne, en Italie, ou des Açores au Portugal, qui pourtant est un État très unitaire.
Si je résume, ceux qui considèrent que ça ne va pas assez loin et ceux qui considèrent que ça va trop loin sont aujourd'hui minoritaires en Corse. Natacha, est-ce qu'on a ouvert la boîte de Pandore ? C'est ce que certains disent. Hein, en ouvrant ça, désormais, il y a d'autres provinces, d'autres régions françaises qui vont à dire si les Corses l'ont obtenu, peut-être qu'on n'est pas une île, mais on a une spécificité historique équivalente.
Alors, j'ai sur ce sujet des débats sans fin avec les gens avec lesquels je suis plutôt proche idéologiquement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gauche républicaine, ceux qui sont attachés à la souveraineté populaire et à la souveraineté nationale, enfin, et qui sont en général très jacobins. Je suis un cas rare de.
Donc très opposé à un statut d'autonomie corse.
Voilà, je suis dans ce cas-là, mais girondine, pour ma part. Et donc, je pense qu'il y a, moi, il y a un élément, en effet, qui m'a chiffonné, et ça rejoint, c'est intéressant, ça rejoint exactement ce que disait Gilles, le terme, les spécificités de la communauté insulaire, puisque en République, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est un principe de garantie de la liberté des individus. Mais au-delà de ça, qu'on considère qu'il y a une spécificité territoriale et historique, je trouve ça, au contraire, parfaitement sain. C'est-à-dire que je pense que j'entends ce que disent justement donc les Jacobins qui considèrent qu'on est en train de revenir avant 1789 et le fameux, en France on change plus souvent de loi que de cheval. Sauf que ce n'est pas de cela qu'on parle. La décentralisation est très certainement une des politiques qui a le plus échoué, qui a les moins été suivies depuis les quatre dernières décennies. Or, je pense que la République n'est pas en train d'être fragilisée par la décentralisation et la reconnaissance des spécificités des territoires. Moi, j'ai une vision de la nation qui est celle d'Ernest Renan, et c'est l'unité, et celle de Braudel, c'est l'unité dans la diversité. Et la reconnaissance de la diversité est une façon de sortir de cette espèce d'abstraction mortifère qui, aujourd'hui, éloigne les citoyens de la République et dans un contexte d'uniformisation mondiale et de globalisation culturelle, je pense au contraire que la République doit s'appuyer sur les spécificités et rapprocher la démocratie des individus. Tous les élus locaux réclament cela. Quand ils sont, par exemple, sénateurs, ils le réclament en permanence. Et là, on les entend hurler quand, enfin, c'est légèrement pris en compte. C'est un peu dommage.
Gilles, vous vouliez ajouter un mot ?
Oui, sur le mot d'unité, la belle formule unité et diversité, contrairement à ce que l'on dit souvent, on dit la France république une et indivisible, le une n'est plus dans la Constitution. La France est une république indivisible, mais elle n'est plus une. Ça veut dire, et d'ailleurs, on a même ajouté dans une révision constitutionnelle, lorsque Jacques Chirac était président de la République, son organisation est décentralisée. C'est dans le même Exactement. Article premier. Et donc, voilà, faut pas avoir une vision trop datée de la Constitution. J'ajoute que la Corse a un statut spécifique depuis maintenant 1982, qui a été revu et accentué, dont les spécificités ont été accentuées à plusieurs reprises. Et je termine en disant que je crois que l'avenir est beaucoup à la différenciation des territoires, dès lors qu'on garde évidemment une unité. On le voit de plus en plus à Lyon. On voit il y a une spécificité des relations entre la métropole et le département. En Alsace, il y a eu des fusions de départements. Je crois que le problème, c'est pas qu'il y ait plus de différenciation. Le problème, c'est quand il y a moins de communs. Et c'est ça aussi l'enjeu pour la République.